Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Bout de Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour Good Luxe Paris, l'édition du week-end. Et oui, vous savez que désormais, Good Luxe Paris existe tous les jours. Je vous retrouve en solo entre 13h et 15h sur BFM Business. Et puis enfin, arrive le week-end. Et là, je retrouve mon acolyte de toujours, Emmanuel Rubin. Bonjour.
Bonjour, merci pour le enfin.
Directeur éditorial des éditions Jaloux. Allez, honneur au design cette semaine et ce week-end. Parce que vous savez qu'il arrive bientôt les D-Days. Ce sera du 1er au 7 juin à Paris. Les D-Days, c'est en quelque sorte le festival du design dans la capitale. Ça fait 15 ans que ça existe. Au départ, c'était 15 éditeurs du côté de la rue du Bac, voilà, qui ouvraient un petit peu leurs portes. Désormais, il y a des éditeurs, mais aussi des designers, des créateurs, des marques, des artisans, et encore j'en oublie, qui proposent plusieurs parcours dans Paris, de Pantin au Musée des Arts Déco, du Viaduc des Arts au Puce, par exemple. On va vous donner quelques exemples, justement, de ce qui sera proposé cette année avec René-Jacques Meyer. Il est le président des D-Days, Grégory Lacroix, il est designer et vous parlera d'olfactif. Et oui, parce que le thème cette année, c'est l'expérience. Agathe Saint-Girons, elle est artisan verrier. Et Céline Pelsé, elle est designer. Elle nous emmènera au Viaduc des Arts. Mais tout d'abord, les nouveautés de la semaine.
Good Luxe Paris, l'édition du week-end, les nouveautés de la semaine.
Et on commence traditionnellement par la table de la semaine, Emmanuel.
Table de la semaine, drôlement bien fichue. Ah. Pour ne pas dire foutu, c'est une vraie fausse nouveauté. En fait, il s'agit d'un bistrot nommé Le Bon Saint Pourçain. C'est un vieux de la vieille parisien, rue Servandoni. La rue Servandoni, c'est une vraie toute petite rue planquée derrière le Luxembourg à Paris. Et comme souvent aujourd'hui, vous savez, les vieux pots font les nouvelles belles adresses avec un personnage dont on a déjà parlé qui s'appelle David Lanner et qui, en toute discrétion, comme cela, sauve la peau de pas mal de belles adresses parisiennes. C'est à lui qu'on l'on doit le café Stern, c'est à lui qu'on l'on doit les restaurants Racine. C'est à lui que l'on doit la crèmerie. Et donc il reprend ce vieux de la vieille. Et c'est vrai qu'il le repulse, qu'il lui redonne une vitalité. Il a gardé ce décor d'auberge urbaine. Alors bien sûr, en le nettoyant, en l'activant. Et puis il met là-dedans surtout un jeune chef. Un jeune chef qui est passé par tout ce qu'il faut de belle maison. Et qui va reprendre tous les basiques, tous les totems bistrotiers, mais avec ce qu'il faut de twist. Alors ça commence par juste, et tout pourrait déjà être dit, un poireau vinaigrette. Sauf que le poireau vinaigrette avec une petite vinaigrette à la cacahuète. Et ça, comme disent certains, ça change tout.
C'est vrai,
c'est
que ça rapporte un petit...
Eh oui, c'est drôlement bien fichu. D'abord parce qu'effectivement, tous les fondamentaux, comme disent les entraîneurs de foot, du bistrot sont là, mais avec ce qui fait justement la flamme, l'élégance...
Et à part le poireau vinaigrette.
Pour le reste, bah, joli travail autour du poisson, notamment un merlan. Vous savez, le merlan, c'était le poisson populaire par excellence, celui qui faisait justement la bistrotte, qui aujourd'hui a pris ses lettres de noblesse et qui devient la nouvelle page blanche de pas mal de bistrotiers ou de restaurateurs. C'est drôlement bien fait, avec un tout petit bout de terrasse. Alors, pour la terrasse, la journée, elle est un petit peu sous la canicule, c'est pas très agréable, mais alors le soir,
impeccable.
Là, quand on se retrouve comme ça, coincé entre Luxembourg et Saint-Germain-des-Prés, c'est quand même tout ce qui fait rêver. Très belle adresse, bon 5%. Coup de chapeau à David Lanner, à sa jeune équipe.
Rue Servandoni, dans le 6e arrondissement de Paris.
C'est déjà plein.
Bah oui,
allez, téléphone, je le donne.
Non. Bon, on n'a pas le temps. Je vais vous parler d'LVMH. Bah
vous casserez le bec. Hein.
Je vais parler d'LVMH. Alors évidemment, non pas du Parisien, c'est pas ce qui nous intéresse forcément ici dans Good Luxe. Du LVMH Prize. Vous savez, ils ont créé depuis l'année dernière un grand prix de la mode et des créateurs de mode. Le jury est composé des 8 patrons des grandes des 8 créateurs des grandes griffes de luxe du groupe. Et donc, le vendredi 22 mai, à la Fondation Louis Vuitton, le grand prix a été décerné à Marta Marques et Paulo Almeida de Marques Almeida. Ce sont des Portugais, un duo portugais qui remporte donc le prix. C'est 300 000 euros et une année de mentorat assuré par le groupe LVMH, ce qui est pas mal. Il y a un prix spécial aussi qui a été décerné au Français Simon Porte-Jacquemus pour sa marque Jacquemus. Donc lui aussi, il a un prix 150 000 euros et une année de mentorat. C'est le prix spécial du jury. Et justement, Jacquemus...
Peut-être se mettre à la couture.
On va en reparler. Web de luxe.
Good Luxe Paris, l'édition du week-end. Web de luxe.
Ça, on Desprenois.
Bonjour.
Bonjour. Alors justement, Jacques Mus, il fait l'actualité sur le web aussi.
Oui, alors bon, Jacques Mus, j'en dis deux mots quand même, parce qu'à 25 ans, il fait partie des grands talents de la mode. Il réinvente vraiment le visuel à travers ses créations, à travers Internet aussi, puisqu'il va relifter intégralement son site marchand qui n'avait que un an et quelques mois. Voilà, donc c'est un site où en fait l'idée, c'est de créer des séries photo mode qui vont aller dans son univers de manière très naturelle. Un photographe à chaque session photo, des photos uniquement dédiées à la vente en ligne. Là, on présente donc la création actuelle printemps-été 2015. On découvre les parasol de Marseille.
Et oui, parce qu'il c'est est marseillais estival. D'origine.
Exactement. C'est très estival, très coloré. Ça lui va ravir. Le site est très joliment fait. Et donc, c'est jacquemus.com/la-boutique. Allez-y, même ne serait-ce que pour jeter un petit coup d'œil, parce que ça vaut le détour.
Et si on veut continuer le shopping, Sandy, on va sur Lovely Market.
Voilà, lovely-market.fr. Là, ça n'a rien à voir, mais on est quand même un petit peu dans le design et dans la décoration. C'était à la base un simple blog. Le blog existe toujours. Et pour les curieux du design, de cet univers-là, il est là encore assez inspirant. On y découvre évidemment des sélections d'objets, des nouvelles inspirations, des nouveaux designers et puis des marques aussi méconnues en France ou alors en exclusivité présentées qui arrivent tout juste. Et donc voilà, au-delà du blog, maintenant c'est un site marchand sur lequel on peut acheter. Moi j'ai adoré, il y a une page avec des téléphones rétro de toutes les couleurs, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. C'est comme je le disais, assez inspirant. Là encore, un joli site.
Lovely-market.fr. Lovely Sandy Prenois, merci beaucoup. Oula. À vous restez encore un petit peu avec nous. Vous avez la moutarde qui vous montonnait, Emmanuel ?
Oui, alors une maison qu'on connaît bien quand même, Maille, qui ouvre sa deuxième adresse parisienne.
Elles en ont une place de la Madeleine déjà.
Alors la première, elle date d'il y a quelques...
Belles années,
pas moins de 20 ans. Hein. Place de Madeleine, toute petite boutique. Là, ils ouvrent leur seconde adresse parisienne, en plein cœur du carrousel du Louvre. Près, alors, là, une maison de 268 ans. Alors, il faut savoir que Maille, bien sûr, c'est la grande marque dijonnaise de moutarde et de condiments. C'est un carton absolu à l'étranger. Mais véritablement à New York, lorsqu'ils ont ouvert il y a deux saisons leur boutique, il y avait la queue. À Paris, un peu moins. C'est dommage parce que c'est vrai que... Certes, il y aura sûrement à trouver des moutardiers beaucoup plus artisanaux et beaucoup plus traditionnels. Mais c'est quand même une belle maison qui travaille drôlement bien. Très, très créatif. C'est vrai que les premiers, avant qu'il y ait ce côté, vous savez, un petit peu, j'aime pas le mot, mais un peu interactif dans les boutiques, ce génie d'avoir inventé la pompe à moutarde, où vous allez arriver et vous allez choisir votre moutarde, condimentée comme il voulait, et vous allez la remplir dans votre pot
de grès
à la dijonnaise. Alors, il rajoute, pour le carrousel du Louvre, un bar à vinaigre, parce que j'ai bien parlé aussi d'un condimentier. C'est pas simplement le moutarde, Maille, c'est aussi bien sûr tous les vinaigres, tous les cornichons. Jolie petite maison. Je dois saluer parce que franchement, d'abord, c'est une maison bourguignonne, dijonnaise, donc ça suffit à mon bonheur. Deux, elle cartonne à travers le monde. Et je crois que parfois, vous savez, y compris vis-à-vis de nos marques, les Français, ils les regardent un petit peu de haut.
C'est un peu French bashing, quoi.
Mais même pas, c'est que on ne voit pas comment elles peuvent faire fantasmer le monde entier. Et quand
exactement.
Elles sont à nos portes, on les oublie un peu. C'est une belle maison qui a su grandir tout en gardant tout de même son sens et racines. C'est ça la force d'avoir 268 ans de mémoire. Moi, j'adore cette boutique.
Voilà, c'est Maille.
Maille,
au carrousel du Louvre. Ça bouge pas mal,
c'est
au carrousel du Louvre. Hein. Allez, un hôtel, ça s'appelle Jock Hotel. Jock, et on est un peu dans la blague, justement, parce que c'est un ancien hôtel, hein, ça existait déjà, réhabilité par Ast Hotel. On est dans le 9e arrondissement, c'est rue Blanche au 69 exactement. Ast Hotel, ils savent faire, ils exploitent déjà à peu près une quinzaine d'hôtels sur Paris, nos 3 et 4 étoiles, notamment le 123 Sébastopol, l'hôtel Georges Opéra, etc. Et là, l'idée, c'est qu'on est dans le ludique, dans l'enfantin, dans la nostalgie, dans le manège, enfin, dans tout cet univers. C'est limite, on a l'impression parfois que c'est l'hôtel pour enfants quand même. C'est-à-dire qu'on est sur du pop, sur du coloré, la grande bibliothèque en bas, eh bien, vous avez plein de petits bibelots, vous savez,
des
de trucs un peu sympas.
Des bibliothèques vertes.
Non.
Martina
vous avez des
plage.
Petits bibelots, des trucs comme ça. Vous avez un petit peu un jouet qui traîne, une sorte de petite voiture de manège. Et puis, dans les chambres, bois clair et couleur, il y a où la version bleue? Voilà, ou la version noire et blanc.
C'est vrai qu'on se croirait un peu dans une école Montessori.
Exactement. Qu'est-ce que vous avez contre les écoles Montessori?
Rien du tout.
Blague à part, il y a 44 chambres.
C'est juste qu'il y a des joujoux dans la chambre, c'est très régressif.
Et voilà.
C'est bien, on pousse les enfants par devant. Généralement, ils suivent quand on entre dans les chambres, là c'est eux qui ouvrent.
44 chambres, entre 135 et 255 euros.
Et c'est là que les enfants
petit déjeuner non inclus. Voilà, faut vraiment aimer, faut savoir qu'ils vont jusqu'au bout de l'idée de la kermesse. Hein. Mais voilà, ça s'appelle Jock Hotel et c'est 69 rue Blanche dans le 9e arrondissement. Et pour terminer par une note un petit peu plus glamour, l'objet de la semaine, ça va vous faire fantasmer.
Il n'est pas avec vous en direct. Hein.
Non, il n'est pas avec vous parce que en fait, ça ne m'allait pas puisque c'est un caleçon de bain pour hommes. Sauf que sur ce caleçon de bain, Villebrequin, qui est une grande marque née à Saint-Tropez, vous savez, est-ce que vous reconnaissez cette photo, Emmanuel, c'est une plage.
Alors, pour ceux qui nous regardent à la télévision,
c'est effectivement une plage. Donc, c'est une collection
c'est la plage de Porquerolles.
Exact, mais parce que vous trichez. Bah, Massimo Vitali, c'est un grand photographe qui photographie toutes les plages à travers le monde. Et évidemment, quand il travaille avec Villebrequin, qu'il faut une collaboration, on cherche une plage du côté de Saint-Tropez. Et parmi les plus belles plages, mais il ne faut pas lire trop fort, il y a cette plage de Porquerolles. Donc, juste au large, les îles du Levant, au large d'Hyères, voilà, par là. Et voilà, on retrouve ça sur le caleçon et sur le cabas qui va avec chez Villebrequin.
C'est vrai que ces photos de plage de cet artiste italien, elles font le tour du monde. Hein.
Exactement. Et là, vous pouvez partir avec. Et c'est presque le prix d'une photo de Massimo Vitali, puisque c'est 220 euros.
Ah non, croyez-moi, c'est nettement au-dessus.
Mille merci, Sandy Pronois. À la semaine prochaine. Allez, restez avec nous. Good Lux Paris vous fait faire le tour de Paris en design.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Good Lux Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Des goûts de designer et des luxes d'éditeur pour une émission dédiée aux D-Days. C'est quoi les D-Days? Eh bien les D-Days, c'est un festival de design qui fête ses 15 ans cette année et qui a eu lieu du 1er au 7 juin. Et pour nous en parler, nous avons invité l'organisateur, tout simplement le grand Manitou, le chef d'orchestre, René-Jacques Meyer. Bonjour.
Bonjour.
Président des D-Days, vous êtes aussi par ailleurs directeur de la création à Sèvres Cité de la céramique. Avec vous, Grégory Lacroix. Bonjour.
Bonjour.
Designer, vous allez nous parler de ce que vous allez organiser pendant les D-Days. Ça s'appelle The Souvenir Factory et ça se passe du côté de l'olfactif.
Tout à fait.
On va voir ça dans un instant. Également avec nous, Céline Pelcé. Bonjour. Vous êtes designer et co-organisatrice de Panorama au Viaduc des Arts. Agathe Saint-Girons, bonjour. Mmh. Artisan, verrier, mais plus encore, on verra ça. Et vous travaillez sur Périfabrique, un projet d'objets connectés artisanal présenté aussi lors de ces D-Days. Et le thème cette année de ces D-Days, justement, c'est l'expérience. C'est bien ça, c'est quand on a 15 ans, on rentre dans l'adolescence, René-Jacques Meyer, et voilà, il faut y aller de son expérience.
Premières expériences. Alors nous, on a peut-être un petit peu de bouteille déjà, mais justement, c'est peut-être l'expérience au sens des acquis de l'expérience qu'on valorise aussi cette année. Mais c'est aussi l'expérience au sens de la recherche, du laboratoire, de la pipette, de laboratoire, de tout ce que le design génère en termes de recherche sur les usages de demain. Et puis l'expérience aussi, ça a une dimension participative, c'est une manière d'inviter le public à vivre une expérience. Donc une dimension immersive, sensorielle, et j'insiste beaucoup sur cette 15e édition avec cette dimension d'expérience participative où vraiment partout dans le festival, on va pouvoir expérimenter des choses, les sentir, être acteur du festival, produire des objets avec des designers, donc une dimension très vivante et très interactive.
Jusqu'à présent, c'est vrai que les D-Days, on avait déjà la chance de pénétrer dans l'univers des créateurs, des designers, soit dans les boutiques, soit dans les showrooms. Là, on aura carrément le droit de toucher, de participer, des demi-designers.
Exactement. En fait, on est dans une forme de générosité supplémentaire. D-Days, c'était déjà très généreux dès le départ. Oui. C'était d'ouvrir, en fait,
toutes les portes. Aujourd'hui, ça paraît une idée neuve pour ramener, il y a 15 ans,
exactement.
C'était un monde assez clos, assez fermé.
Exactement. Très novateur. Ça permettait, en fait, au grand public de découvrir, de pousser la porte d'un showroom et de donner aussi des lieux d'expression à des jeunes designers. Et certains sont devenus célèbres depuis. Cette année, c'est une étape supplémentaire où on devient véritablement acteur. Alors, je dirais pas qu'on va devenir designer en soi, mini-designer, mais en tout cas, on va travailler avec les designers pour faire des choses. Et on va toucher du doigt et de tous les sens.
Et d'ailleurs, voilà. Non, mais c'est ça. Je voulais montrer rapidement le plan, mais on va décrire tout ça parce que ça se passe effectivement. On a parlé de la capitale, mais c'est presque le Grand Paris. Aujourd'hui, on va de Pantin au Viaduc des Arts. On passe par le Musée des Arts Déco. Très présent, on va revenir là-dessus dans un instant. On va aux puces aussi cette année. C'est ça. Ce sont des parcours aussi. L'idée, c'est on prend le petit plan et on va se balader. On pousse les portes et rencontrer aussi tous ces gens qui sont là aujourd'hui. René-Jacques Meyer.
Et Exactement. On prend le petit plan, on prend le guide, on prend l'application, puisqu'on a une application smartphone qui va permettre de se promener pendant tout le festival, pendant toute cette semaine. Et c'est vrai que on a voulu l'être, là aussi être un peu prospectif et se dire que c'est pas que Paris. Donc il faut qu'on soit à l'échelle du Grand Paris. Alors les années précédentes, on était déjà à Pantin. Cette année, on est à Saint-Ouen. Donc petit à petit, on étend le territoire parce que finalement, il faut penser le design, y compris dans ses usages, de manière beaucoup plus large. Et le Grand Paris, c'est demain. Enfin, c'est même presque aujourd'hui.
Est-ce que vous pensez d'ailleurs, parce que c'est vraiment la marque de fabrique des Didès, ces parcours parisiens, est-ce que vous croyez qu'une partie du succès de ces Didès, c'est justement aussi de réinventer un peu la géographie parisienne, le temps d'un week-end et de quelques jours, comme ça, pouvoir s'approprier sa ville par le biais et par le prisme du design, de boutiques en showroom, d'ateliers en lieux beaucoup plus expressifs, voire patrimoniaux, hein, quand on parle Exactement. De Sèvres ou de Saint-Ouen. Saint-Ouen, c'est un patrimoine, les puces.
Tout à fait. C'est une manière d'offrir, en fait, à l'usager, parce qu'un festival de design, ça met l'usager, en fait, le visiteur, hein, au cœur de sa préoccupation, des parcours qu'on a pensés pour eux, à une échelle mesurable. C'est-à-dire qu'on a 3 heures. En 3 heures, on peut faire un parcours où on va découvrir soit au travers de la zone Palais-Royal, soit du côté de la rive gauche, soit du côté de Marais, République-Bastille, ou bien sûr du côté de Pantin et Saint-Ouen, des expériences qui se croisent. Ce qui nous importe, nous, c'est de ne pas avoir une vision monotypée du design. Le design, c'est pas que dessiner des objets, dessiner du mobilier. C'est aussi croiser des expériences, faire travailler des artisans avec des designers. C'est aussi parler de design de service, c'est être prospectif aussi sur qu'est-ce que vont être nos usages de demain. Et donc, c'est en essayant de croiser, en fait, toutes ces approches qu'on donne une forme de dynamique et une lecture, en fait, aux visiteurs.
Alors, le Musée des Arts Déco, je vous disais, très présent, hein, cette année, un petit peu au cœur de Paris, déjà, et du coup, au cœur un petit peu des Didès.
Alors, ça, c'est une vraie... Je dirais oui, c'est une vraie victoire parce que ça faisait un moment qu'on voulait être présent aux Arts Déco.
Ça paraissait logique.
C'est la maison mère quand même, c'est la maison de la discipline, des arts décoratifs, du design. Donc c'est vrai que cette année, je crois qu'on peut le dire, on doit beaucoup à David Caméo qui en est devenu le directeur général et à Olivier Gabay aussi.
Et qui est ancien de la manufacture de
voilà,
Sèvres.
Voilà, qui est ancien de la manufacture de Sèvres.
Du réseautage.
Mais oui, mais
c'est bien.
Mais bien sûr.
Il y a une vertu du réseautage.
Exactement, il faut utiliser les réseaux de la bonne manière. Ils nous ont vraiment très généreusement ouvert les portes puisque cette année, on va présenter dans tous les arts décoratifs, c'est-à-dire du rez-de-chaussée jusqu'au 9e étage, près de 15 propositions. Donc on est présent dans les collections permanentes, dans les espaces de circulation. Voilà, on investit vraiment totalement le musée dans toutes ses dimensions.
Alors pour revenir à l'histoire, on disait il y a 15 ans, ça a commencé rue du Bac, comme ça, on a des éditeurs, une quinzaine d'éditeurs qui commencent cette histoire des Designers Days. Et Grégory Lecoy, vous êtes designer et c'est là-dessus qu'on vous a demandé de travailler en fait.
Tout à fait, on m'a demandé en fait de créer un lien et de mettre l'accent sur 12 marques, 12 maisons qui ont initié les Didès. Donc des maisons comme Poltron Afro, Cassina, Taiping... Et j'en passe.
Il y a du beau monde quand même. Hein.
Oui, il y a du beau monde. Du coup, l'ambition de ce projet, The Souvenir Factory, c'était de faire découvrir au public, au plus large public, ces maisons. Qu'est-ce qui les constitue, comment elles sont nées, qu'est-ce qui ont fait que ces maisons sont devenues ce qu'elles sont, comment des icônes ont été créées. Donc aller au-delà un peu de l'aspect visible et montrer l'âme de ces maisons.
Mmh. Alors justement, c'est intéressant parce que c'est Italo Svevo qui parlait beaucoup, l'écrivain italien, de ce qu'on appelle les invisibles. Comment on peut designer l'invisible?
Alors designer l'invisible...
Alors je sais que c'est expérimental cette année, mais c'est quasiment une équation à multiple inconnu.
Non, c'est
moi,
pas impossible.
Moi, je suis boulé. J'étais boulé.
Si vous voulez, quand on va chez Cassina, on va découvrir le tabouret cabanon de Le Corbusier. Donc ce que vont permettre les odeurs, c'est de rappeler le lieu où a été créé ce cabanon.
Mais c'est ça, parce que vous n'avez pas expliqué la The Souvenir Factory. On travaille sur l'odeur.
Vous travaillez avec
Jean-Jacques Takasago. Et en fait, ce que vous reproduisez en odeur, c'est savoir-faire.
Tout à fait. Ce qu'on reproduit, c'est l'intuition d'un designer. Comment fait face une maison comme Taiping face à un ouragan qui va détruire une de ses commandes historiques. C'est se remémorer tous ces messages, toutes ces histoires par le biais du parfum. Donc le parfum est un puissant évocateur. Et avec Jean-Jacques de la maison Takasago, on a travaillé à imager l'invisible.
Alors justement, là, avant que je vous coupe éhontément à propos de ce tabouret de Le Corbusier, comment on va pas tout déflorer, tout dévoiler de tout ce que vous avez travaillé, mais on prend un exemple. Ce tabouret, comment vous allez l'incarner à travers les odeurs? Alors, comment vous l'avez incarné?
Le Corbusier, il avait pour habitude de partir en retraite à Roquebrune, Cap-Martin, chez une amie. Il a construit une unité de vie qui s'appelle le Cabanon, donc qui est une cellule avec le strict minimum vital. Et il a réalisé notamment du mobilier dans ce cabanon, notamment un tabouret. Et qu'est-ce qui a inspiré le Corbusier? Ce sont par exemple les caisses de whisky qui venaient s'échouer sur la plage.
Ça vous parle, ça?
Donc l'odeur que l'on va créer, finalement, c'est cet air iodé, c'est ce bois teinté de whisky qui s'est échoué sur l'eau, c'est l'odeur des pins. Et on va avoir une attaque un peu forte sur l'odeur du whisky et du bois teinté de whisky, puis on va arriver vers l'odeur d'épinette et de la mer. Voilà, donc finalement, sentir une odeur, c'est sentir une écriture, c'est avoir accès à un scénario. Il faut juste se laisser porter.
Et sur l'ensemble des maisons, vous avez réussi à chaque fois à trouver une odeur? Parce que, au départ, c'est formidable comme contingence, comme cahier des charges. Il y a des grandes maisons qui étaient là il y a 15 ans. J'imagine qu'elles ne pensaient pas aux odeurs. Lorsque vous devez raconter cette histoire de souvenirs, vous avez réussi à trouver 15 odeurs qui soient référentielles, qui aient inspiré ces maisons-là.
On a réussi. C'est sûr que la première était plus facile à trouver que la dernière. Mais effectivement, on a réussi et chaque odeur est vraiment spécifique à chaque maison. Il n'y a pas de redondance, c'est ça qui est important.
Tu dis, Grégory Lecoq, c'est pas un débutant, diplômé de Nancy, les ateliers de l'école Boulle. Vous avez fondé votre propre studio de design d'architecture d'intérieur. Vous avez déjà travaillé un petit peu sur le parfum, justement, à Grasse, avec la maison Dior.
Alors, indirectement, j'avais travaillé effectivement avec Christian Dior Parfum. On était plutôt sur raconter ce qu'était le montage d'un parfum.
Donc, mais du coup, c'est pareil, c'était mettre en volume, c'était l'inverse, voilà. Presque, mettre en volume un parfum.
On était plus du côté du procédé et on faisait en sorte que les gens qui allaient constituer une rose, qui était une interprétation de la rose centifolia, puissent se projeter au travers du montage de cette rose et comprendre le montage du parfum. Donc on était plus matériel, là on le sera un tout petit peu moins, mais le voyage sera, à mon avis, aussi important.
Et donc effectivement, c'est pas le même travail que quand vous travaillez en ce moment, notamment sur des intérieurs d'hôtels ou des choses comme ça. Mais c'est ce qui fait aussi, et j'imagine que c'est ce que vous voulez démontrer, René Jacquemeyer, au D-Day, c'est le travail du designer, c'est tout ça. C'est aussi large que ça.
Oui, alors les D-Day nous offrent un terrain de jeu assez incroyable. En général, on essaye d'expérimenter beaucoup plus lors de ce type de festival.
Carte blanche. Sortez un peu des contraintes.
Alors, c'est presque
habituels.
Une carte blanche. J'avais quand même 12 clients face à moi et le 13e qui était les D-Day. Donc, ça fait beaucoup pour un seul projet.
Pas n'importe quel client.
Néanmoins, c'est aussi ce qu'on attend, enfin, ce que mes clients attendent de moi, c'est que je sois capable de réinterroger leurs problématiques et du coup, de savoir expérimenter. Voilà, donc c'est ce que permet entre autres ce festival.
Et c'est ce qui est important aussi, c'est les échanges. On va voir ce que vous disiez, René Jacquemeyer. Mais à Agathe Saint-Géron.
Il faut peut-être faire parler les dames, parce que le design devient un machiste.
Justement, regardez, designer.
Agathe Saint-Géron. Il reste encore une deuxième partie, il n'y aura que vous, mesdames.
On parlait du musée des Arts Déco tout à l'heure. Vous êtes créatrice de bijoux, verrière, plasticienne, souffleur de verre, j'en oublie peut-être. En tout cas, vous êtes l'artisan de l'histoire.
J'étais mise dans la catégorie artisan, même si mes collaborateurs dans cette carte blanche, en fait, je pense que vous avez raison, c'est vraiment une carte blanche, n'aimaient pas trop ce côté un peu sectaire.
Cette classification.
En fait, justement, la manière dont Périfabrique a été menée, on va dire, et pensée, c'est d'inverser le process. C'est-à-dire qu'on m'a demandé, on m'a proposé, en fait, de choisir différents designers. Il s'avère que ce sont des architectes que j'ai choisis, c'est RDAI. Une société donc qui fait de l'architecture intérieure et aussi du design d'objets. Et dans le monde entier, c'est une société qui rassemble 53 salariés. Donc c'est une énorme boîte par rapport à moi, que je suis toute seule dans mon atelier, qui travaille aussi à l'international. Mais enfin, je suis vraiment un artisan, comme vous le dites. Je suis plasticienne, artiste, mais artisan au niveau du geste. Quoi.
Alors, et vous allez nous raconter dans un instant.
C'était juste. Vous êtes un canif suisse de l'artisanat. Vous pourriez être aussi présentatrice télé radio. Donc, on a bien compris. Pour une fois, c'est l'artisan artiste qui choisit son designer.
Grâce.
Et ça s'appelle Périfabrique.
Dans un instant.
Présenté au musée des Arts Déco. On fait une petite pause sur BFM Business et on se retrouve tout de suite pour Good Luxe Paris.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Good Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Et quand le design s'empare de la capitale, le Boudlux lui consacre une émission. Ça s'appelle les 10 Days. C'est du 1er au 7 juin. René-Jacques Meyer est toujours avec nous, président des 10 Days. Grégory Lacroix, designer, qui officiera sur The Souvenir Factory. Agathe Saint-Girons sur Périfabrique en tant qu'artisan verrier. Et Céline Pelcé, vous la retrouverez au Panorama, au Viaduc des Arts. Vous êtes aussi designer. On va venir à vous dans un instant. Agathe Saint-Girons, on a fait juste avant la pause, vous nous avez un petit peu annoncé ce que vous allez faire. On rappelle, donc, ce sera un rendez-vous au Musée des Arts Déco. Ça s'appelle Périfabrique. C'est une rencontre entre des artisans et des designers pour créer ensemble. La nouveauté, c'est que souvent, c'est les designers qui viennent voir les petites mains, entre guillemets, dont il a besoin. Là, c'est vous, les artisans, qui avez dit ben, « Moi, je travaillerais bien avec un tel, je travaillerais bien avec un tel. » Vous avez choisi l'agence d'architecture RDAI, architecture d'intérieur et d'objets. Et alors, qu'est-ce que vous présentez? Quand vous avez travaillé, qu'est-ce que vous présentez?
Ben, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, non seulement, là, on a inversé la tendance, donc c'est l'artisan qui choisit le designer, mais surtout, donc, ça amène à arriver donc page vierge. On est vraiment sans aucune idée préconçue. C'est une rencontre humaine qui va amener... Et bien sûr le thème, donc l'expérience. Mais nous, on a pris ça au niveau du quotidien, en fait, l'expérience du quotidien. Donc c'est la rencontre humaine des personnes de RDAI qui et moi-même qui a permis en fait de créer, de penser, d'interpréter et de voir combien on avait de points communs. En fait, on s'est choisi presque mutuellement. C'est assez rigolo cette histoire de mariage.
Et alors sur quoi donc, vous travaillez? Parce que je parlais de bijoux tout à l'heure. Vous travaillez sur le bijou contemporain. D'ailleurs, vous avez été récompensé pour ça. Aujourd'hui, vous portez un magnifique collier. Vous travaillez beaucoup le verre, mais vous travaillez aussi des bijoux comme vous portez aujourd'hui. C'est là-dessus que vous êtes rencontrés ou sur toute autre chose?
Sur toute autre chose. C'est vraiment une rencontre humaine. C'est vraiment une rencontre d'intention. On a adhéré au principe de la carte blanche. On a adhéré au thème. On a adhéré à la disponibilité. Ce qui est difficile avec une société aussi occupée en fait que RDAI. Mais on s'est vraiment mis à table autour de ce thème d'une manière très disponible, tant bien que mal, pour créer quelque chose qui n'a de plus rien à voir avec ce que RDAI fait et ce que je fais. C'est-à-dire que dans cet objet, vous n'avez ni verre, ni métal, ni bijoux.
Et c'est quoi alors,
quel suspense. On sait que vous avez passé du temps à table, des rencontres très humaines. Mais alors, c'est quoi le résultat? Parce que le design, à la fin, il faudrait quand même que ça soit un tout petit peu incarné.
Dieu merci. On est quand même à fond dans le sujet. Là, on est sur un objet qui s'appelle Galex, qui vient en fait nous aider au quotidien pour tout ce qui nous manque en fait. On a bien sûr maintenant notre objet incontournable, c'est le téléphone qui fait autant agenda, téléphone et plus encore. Mais on est toujours à court de batterie, on a toujours le trousseau de clé qui a disparu, on a pas de données, mince, le disque dur ou la clé USB. Quand on rencontre quelqu'un, éventuellement même moi en tant qu'artiste, quand je rencontre une galerie, là on n'est plus à l'ère du book. Avant j'avais des jolis books en papier. Et maintenant, voilà, le site internet, si on n'a pas de réseau. Donc, on a pensé à toutes ces choses-là qui, étonnamment, sont aussi des objets nécessaires à une grosse société. Donc, encore une fois, on s'est rencontrés.
Vous avez fait un objet connecté.
Et on a fait un objet connecté. Donc là, nous allons présenter le prototype donc, dans la salle des boiseries au Musée des Arts Décoratifs.
Alors, c'est une souris, c'est un disque dur.
C'est la seule chose, en fait, qui m'embête un peu, c'est que ça ressemble à une souris informatique. Effectivement, mais c'est un galet. On est parti du fait que chacun... dans notre poche, dans notre sac. On a tous un petit gris-gris. On a un petit objet à nous qui nous rappelle justement aussi... on peut avoir effectivement un souvenir olfactif, mais un souvenir de toucher, un caillou, etc. Donc on est parti du galet, et sur ce, justement, Denis de RDAI disait, mais le silex est quand même le premier outil de l'homme, donc on est allé sur galet avec silex, galex. Donc les pans coupés réfèrent en fait le silex.
Premier objet civilisé.
Et la rondeur justement, absolument. Et la rondeur justement, ce côté extrêmement doux et sensuel et qui est personnel. Donc ça marche en fait. Là, c'est une recharge induction qui va rester soit sur le bureau ou à la maison, sur laquelle on pose l'objet. On peut également poser le téléphone directement. Mais en fait, ça, c'est pour recharger l'objet. L'objet en lui-même va également devenir une batterie, ce qui permettra ensuite au téléphone de se recharger quand on est ailleurs en déplacement, si on est à court de batterie. C'est également un disque dur. Quand on le met à côté d'un ordinateur, on peut transférer ou recevoir des données. C'est également un vidéo proche, ça c'est un truc assez incroyable, mais on s'est associé à une troisième
entité. Mais il faut
entité.
Les guider, c'est pour ça, on est parti quand même. C'est dingue, Herdeuil, hein, ouais. qui est une grande agence qui travaille notamment avec Hermès, par exemple. Une artisan verrière, et René Jacquemeyer, on arrive à un objet connecté dont on parle dans Culture Geek, en général, sur BFM Business.
Mais je pense que c'est un peu la magie de ce programme. C'est un vrai programme de co-création. Alors, Agathe l'a très bien dit, hein, on inverse les choses, c'est le designer qui choisit, c'est l'artisan qui choisit le design. Mais c'est une vraie page blanche, une carte blanche qu'on donne dans cette collaboration. Et du coup, ça peut donner des choses étonnantes. Et là, je trouve que c'est particulièrement étonnant parce que l'un comme l'autre sont sortis de leur univers.
Et voilà.
Et donc, je trouve assez extraordinaire. Et c'est dans un espace vraiment de liberté totale de création.
On va juste.
Qui colle en plus à la thématique.
On va juste. Les deux dernières fonctions, c'est donc vidéo proche, parce qu'il faut quand même le savoir. On arrive maintenant avec des techniques vraiment miniaturisées à pouvoir projeter des données, des images. Donc, pour nous, c'est très important. Autant que pour RDAI aussi, s'en servir au quotidien. Et aussi, c'est le badge, le fameux badge qui va pouvoir, dans quelques. Bon, peut-être pas moi, mais dans pas longtemps.
Ouvrir toutes les portes.
Ouvrir toutes les portes. Que ce soit à voiture,
vivement.
Maison.
Quand on parle des canifs suisses, c'est ça.
Le petit couteau suisse, exactement. Ouais.
Alors, je voudrais citer aussi, dans Périfabrique, il y a d'autres associations, l'atelier Arbois Décor avec Luther Kenoum, Maurice Aroulas, qui est fondeur d'art avec Samuel Bernier, et atelier Caudron, marbrerie d'art et Normal Studio.
Allez, Céline,
vous allez encore plus loin au Viaduc des Arts. Là aussi, on a beaucoup d'artisans. Vous êtes designer, et l'idée, on en parlait au tout début avec René Jacquemeyer, c'est de rendre l'histoire participative. Vous faites partie d'ailleurs de Génération Boule.
Voilà.
C'est ça que vous avez fait, l'école Boule et les Sades de Reims. Racontez-moi.
Alors du coup, l'école Génération Boule cette année participe pour la deuxième fois au Designers Day avec le Viaduc des Arts. Et dans cette collaboration, cette année, on a décidé d'adapter le projet Panorama. Panorama, en fait, c'est un service imaginé par le designer Germain Maga, qui fait également partie de notre association. C'est un service qui propose, en fait, de découvrir un lieu par le biais de l'artisanat. Donc, Panorama, on l'a adapté au Viaduc des Arts pour en faire un parcours qui s'appelle Objet de visite et qui propose aux Parisiens, en fait, de venir faire fabriquer un objet dont il va suivre toutes les étapes de fabrication. Et cet objet assemble différents savoir-faire issus du Viaduc des Arts. Donc, les objets ont été dessinés, prototypés, etc., par des collaborations entre les artisans du Viaduc des Arts et les designers de Génération Boule. Et du coup, ça propose une expérience à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que pour le participant, ça lui permet d'avoir un objet dont il connaît les étapes de fabrication de A à Z.
Non, il est vraiment dans la coulisse, dans le making-of, ouais, dans les ateliers.
Dans la coulisse. Et également, il peut en fait participer lui-même en choisissant des détails de l'objet, des couleurs, une couture, un matériau. Donc il fait partie vraiment du circuit en fait de fabrication. Et on arrive à la fin avec des objets qui sont un peu carte d'identité du Viaduc des Arts, parce que pour la première fois, c'est un objet 100% fabriqué par des artisans du Viaduc des Arts.
Céline, mais il y a un petit côté quasiment course de relais, on a le sentiment. Est-ce que ça se passera comme ça? Parce qu'on rappelle, hein, le Viaduc des Arts, c'est cette bâtisse historique, véritable viaduc en plein cœur de Paris, du côté de la gare de Lyon, où depuis quelques saisons sont installés dans les voûtes, tout un tas d'ateliers, d'artisans, de designers. Là, alors, si je suis bien, on va commencer dans un atelier avec un objet, puis on ira dans un autre atelier, puis dans un autre atelier où l'objet évoluera. Ça se passe comme ça. Est-ce qu'on a le sentiment d'une passation de course de relais appliquée au design?
C'est une sorte de relais, pas forcément course, parce qu'il n'y a aucune pression mise sur le participant. En fait, c'est-à-dire que chaque objet contient deux ou trois savoir-faire d'artisan. Donc, ça s'étale sur, disons, 2 heures à peu près. Donc, l'idée, c'est surtout de pouvoir rencontrer les artisans, discuter avec eux de leur métier et découvrir leurs ateliers, et même s'arrêter à des voûtes qui ne sont pas forcément dans notre objet.
Vous pouvez nous en raconter un seul? Pour qu'on comprenne tout.
Par exemple, alors tous les objets sont sur la thématique du jeu cette année. Donc il y a un des objets qui est un tangram. Le tangram, on commence chez un ébéniste.
Alors tangram, j'ai déjà déconnecté.
Ah si, c'est les différents.
Alors le tangram, c'est.
C'est
un carré en fait découpé en différentes formes avec lesquelles derrière on peut dessiner des.
Il faut reproduire des formes, d'autres dessins.
Reproduire d'autres formes.
Bah là, je suis moins bête.
Souvent, en fait, le tangram est fait par la même matière sur toutes les pièces. Et du coup, ici, le tangram commence chez Olivier Dolé, qui est ébéniste, qui va fabriquer le socle et puis des pièces en bois. On continue chez Inkut Maroquinerie, qui va appliquer du cuir sur certaines pièces
Et on finit chez Mariscaëlle Orfèvre, qui finit par faire une pièce finale en laiton. Et donc, on a un tangramme qui assemble trois matériaux.
Trois rencontres avec trois artisans, dans trois ateliers, trois savoir-faire.
Voilà. Donc tout ça, c'est voir faire le geste, voir faire, voir choisir la matière, avoir des anecdotes aussi sur les métiers.
Et René Jacques nous disait qu'il y avait un côté participatif. Est-ce que à l'instant où on vivra quasiment en direct cette création, on peut justement, comme vous le disiez, choisir non, moi je préférerais telle couleur, même si on a très mauvais goût.
Dans la mesure du possible.
Je préfère le jaune pétard là.
Oui, alors oui, il y a un certain panel de choix qui aura été vu du coup en amont avec entre les designers et les artisans, mais oui, ça va être la couleur du cuir, ça va être un tissu, un motif, c'est ce genre de choses qui va faire.
Je vais même corriger un petit peu l'artisan, non, fais pas comme ça, trois couteaux sur la droite.
On a quand même des gens très experts,
il y a des savoir-faire, effectivement, de très haut niveau. René-Jacques Meyer, effectivement, donc là, on parlait avec Grégory Lecoy de design olfactif, même si vous faites aussi de l'architecture à l'intérieur du design. Là, on a vu comment on pouvait aller très loin. On était avec des artisans, des métiers d'art, on a parlé des éditeurs, on a parlé des musées. Est-ce que vous avez fait, j'allais dire, le tour de la question? Est-ce que vraiment tous ces éléments qui font le design d'aujourd'hui à Paris sont au Didet? Je pense par exemple au design culinaire. Il y a un rendez-vous avec le design culinaire?
Alors, parfois, au travers de certaines propositions d'exposants, on peut avoir une expérience autour de la nourriture. Ça a été le cas l'année dernière chez certains éditeurs. Moi, je dirais que là, on doit ouvrir une porte. C'est sur ce design qui est plus un design de service, qui est un design d'interaction, et sur lequel on met l'accent cette année, puisqu'on prend un risque. On crée cette année un vrai forum. On avait commencé déjà à faire des...
Au carreau du temple. Au carreau du temple. Il faut absolument en parler, oui.
Exactement, parce que c'est une vraie prise de risque pour nous, mais je crois qu'il fallait qu'on le fasse. C'est un moment où on va réunir des professionnels, des designers, des sociologues, des chercheurs qui vont...
Et le public ?
Et le public, bien entendu. On fait ça pour le public. On fait ça pour le public. Qui vont réfléchir aux usages de demain. Et dans tous les champs de notre vie quotidienne. Comment est-ce qu'on va habiter demain? Comment est-ce qu'on va se mouvoir dans la ville demain? Comment est-ce qu'on va travailler demain? Comment est-ce qu'on va être connecté? Et donc, on va ouvrir sept sessions thématiques qui vont se dérouler pendant 2 jours et qui vont permettre de donner des clés, qui vont pas forcément donner toutes les réponses, mais en tout cas qui vont ouvrir des sujets avec des intervenants de qualité. J'en vends un pour faire un peu de teasing.
Ah, bien sûr.
On a Jérémy Rifkin qui vient pendant ce forum de 2 jours, qui vient faire une intervention sur la troisième révolution industrielle. Donc c'est assez extraordinaire, on est très heureux, et c'est là où on trace le futur aussi de Didet, c'est-à-dire de partir de cette base qu'on vient de voir là ici, d'expérience, de rencontre, et d'aller vers quelque chose qui est très prospectif.
Et malheureusement...
En 2030, alors,
voilà.
Et malheureusement, aujourd'hui, on vous a donné quoi? Allez, 10% de ce que vous pouvez voir au Didet, un petit aperçu en tout cas de ce que vous pourrez voir du 1er au 7 juin dans Paris. On vous rappelle l'application, le plan et que sais-je encore pour
le site internet
pour découvrir tous ces parcours et surtout tous ces savoir-faire, tous ces gens,
l'école Boulle, bravo.
Tous ces gens, toutes ces écoles, tous ces musées qui sont là pour effectivement vous présenter leur savoir-faire. René Jacques Meyer, merci infiniment à vous,
merci
président
à vous.
Des Didet, Grégory Lacroix. Merci beaucoup à vous, Agathe Saint-Girons et Céline Pelletier. Merci beaucoup et je vous souhaite un très bon festival à tous. Restez avec nous, Goodux Paris continue dans un instant.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Goodux Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Et c'est l'heure de l'agenda dans Goodlux à cette heure-là, mais aussi depuis 2 mois, maintenant notre nouveau rendez-vous avec le palmarès du parfum. Ce sera dans un instant avec Lionel Paillès, mais tout de suite le livre de la semaine. Un livre choisi uniquement pour Emmanuel Rubin. J'aurais pu dire presque par Emmanuel Rubin, vous auriez pu l'écrire finalement ce bouquin, Emmanuel. Ça s'appelle « Où mangent les chefs ?», le guide des restaurants préférés des chefs. Ça c'est l'idée, et l'idée qu'il a eue, un critique gastronomique basé à Londres qui s'appelle Joe Warwick et c'est chez Feuilleton, donc ça sort. Pourquoi c'est pas vous qui l'avez eu l'idée?
Sincèrement, je pense pas que j'aurais eu l'idée. Ça s'appelle se tirer une balle dans le pied. Pourquoi j'irais demander au chef de prendre ma place, c'est-à-dire celle du critique gastronomique? C'est un peu comme si moi, je devenais chef. autant vous dire que c'est grave.
3000 restaurants sélectionnés, il a fait un sacré boulot. Vérité, hein. 630 chefs du monde dans 70 pays.
Sacré bonne idée. C'est vrai que finalement, les chefs, vous savez que quand ils sont pas dans leur cuisine, ils sortent leurs antennes pour aller voir ailleurs ce qui se passe. Ils ont tous leurs fournisseurs, ils ont toutes leurs petites adresses. En fin de service, ils aiment bien pratiquer leur ville. Et c'est vrai que c'est finalement peut-être parfois les meilleurs critiques gastronomiques parce qu'ils ont à la fois un regard qui se porte sur le recto de l'adresse, ce qui est en façade, sur le balcon, en scène, et puis sur le verso. Donc c'est pas les plus mauvais critiques de la place. Ce qui est intéressant, c'est tous les chefs du monde, et donc on a une manière de grand guide global et mondial de la gastronomie. Pour bien comprendre et pour voir si l'adresse valait à peu près le coup, si ce n'est le goût, je suis allé voir ce qui se passait du côté de Paris. La sélection, elle est bonne. Elle est bonne. Pas plus originale que celle de tous les autres guides gastronomiques. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez effectivement avoir les bonnes adresses des chefs à Rome, à New York, à Londres, à Tokyo. Ça, c'est drôlement bien vu. En revanche, alors, Céphalidon, c'est un très très bel objet. Vous savez, c'est une grosse masse.
C'est un bottin, quoi.
C'est un coffee table book, comme on dit. C'était vraiment, en termes de mise en page, c'est un bottin, mais vraiment à la manière du bottin. Donc, c'est difficile d'y entrer. Soit on le met en décoration, pour snobiner un petit peu. Soit, effectivement, à chaque départ, vous scannez la page ou vous la photocopiez, pour ceux qui, comme moi, datent un peu des années 80-90.
J'ai la solution.
Et c'est plutôt pas mal.
Y a la
pense qu'ils vont faire une appli.
Et voilà, il y a la version application.
C'est vraiment bien fichu.
Et ça s'appelle « Où mangent les chefs ?» tout simplement. Pour
Les chefs ont qu'à écrire « Où mangent les critiques ?» ou ça, chez eux.
Ah bah voilà, ça sera le prochain pour vous la raconter un petit peu. Allez, notre palmarès du parfum.
BFM Business, Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end.
Lionel Paillès, bonjour.
Bonjour Karine.
Comment ça va depuis le mois dernier ?
Bien.
Et il s'est passé des choses sur la planète parfum depuis le mois dernier. De toute façon, il se passe toujours des choses, donc ça c'est bien. Donc, la première chose, il y a eu une sortie importante, je crois, j'ai vu ça dans la presse, Alaïa. Il est comment le parfum Alaïa ?
En ce moment, il est très très bien. Vraiment, je crois qu'il y a deux parfums qui étaient très attendus, c'était Alaïa et le Louis Vuitton qu'on attend toujours. Et qu'on attendra peut-être encore une année de plus.
Ils sont sur le Parisien, là.
Voilà, ils ont d'autres chats à fouetter. Le Alaïa, c'est vrai qu'il était très attendu. Donc, c'est une licence qui a été vendue à BPI, donc qui est spécialisée dans les marques de créateurs, comme Jean-Paul Gaultier, Issey Miyake, etc. Il est vraiment très bien parce qu'il est hyper ambitieux. Vraiment, c'est un parfum. Donc, le brief était assez simple. Il a convoqué une parfumeuse de chez Firmenich qui s'appelle Marie Salamagne et il lui a dit, je me souviens j'ai un souvenir d'enfance de la Tunisie, c'est ces femmes qui sortent dans la rue, qui jettent des seaux d'eau glacée sur les murs en chaud pour rafraîchir. Voilà, faites-moi un parfum sur cette idée-là.
Pas mal.
Donc, c'est génial.
C'est
frais alors.
Alors c'est frais, mais avec tout est dans l'impression. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas qu'on reconnaisse la moindre matière première dans ce parfum.
D'accord.
Donc tout est sujet à tout travaille sur les impressions. Donc il y a une impression de fraîcheur qui est liée au poivre rose. C'est-à-dire que il aurait pu prendre la menthe, il aurait pu prendre des agrumes. Il a pris du poivre rose surtout une matière première, une impression très animale. C'est pour ça que je dis que c'est ambitieux parce que les notes animales dans la parfumerie sélective, c'est extrêmement rare parce que ça, en général ça marche pas. C'est un petit peu difficile d'y rentrer.
Très joli flacon.
Très joli flacon.
Tout simple, noir.
Qui rappelle tout son univers.
Doré, voilà, un petit peu.
Le fameux perforé Alaïa.
C'est son premier parfum, Alaïa.
C'est son premier parfum.
Oui, c'est ça.
Qui s'appelle
Alaïa.
Alaïa.
Alaïa, tout simplement.
Premier,
donc ça, voilà, à retenir pour ce mois-ci, Alaïa.
Parfum féminin, hein.
Bien sûr.
Oui.
La confirmation, Lionel, la confirmation de ce mois.
Alors c'est une collection qu'on aime bien, mais. Je dirais qu'ils avaient démarré très très fort chez Guerlain. Ils avaient lancé une collection qui s'appelle les Aqua Allegoria. Donc ce sont des eaux fraîches, on va dire. Ça a démarré il y a une quinzaine d'années maintenant. Avec deux magnifiques parfums qui étaient signés à l'époque, avant qu'elle arrive chez Cartier, Mathilde Laurent. L'un s'appelait Pamplelune et l'autre Herba Fresca, qui étaient les deux plus grands de la collection, qui en compte une vingtaine aujourd'hui. Donc, entre-temps, on s'ennuyait un peu dans les Aqua Allegoria, et là, ils sortent donc c'est vraiment la mode des notes thé en ce moment, un parfum qui s'appelle Tizura. Donc thé Zura, donc le thé et l'horizon et le ciel bleu, etc. Donc vraiment très joli, c'est vraiment pour moi le parfum le plus accessible du moment et joli. C'est un parfum que moi j'aurais envie d'offrir, que vous pouvez offrir très facilement. Donc on est vraiment dans des notes très fraîches avec évidemment des agrumes, de la bergamote de Calabre et des notes marines. Donc l'idée c'était de jouer quand même le bord de mer, l'impression de bord de mer. C'est très beau, vraiment très très beau et accessible. Donc
Une fois n'est pas coutume.
Absolument, oui.
Qui partiront sur les rives.
Et donc, puisqu'on parle de thé, encore du thé, avec la collection de du mois.
Voilà, ça c'est vraiment la collection. Alors, il faut se rappeler qu'en 1992, Bulgari, qui lançait son tout premier parfum, qui était l'eau parfumée au thé vert, avait initié cette note thé. Elle n'existait pas en parfumerie. Ils ont poursuivi la collection avec l'eau parfumée au thé rouge, l'eau parfumée au thé blanc. Et là, ils nous lancent l'eau parfumée au thé bleu. Donc avec une association assez marrante, avec une note de thé oolong, qui est un thé chinois, qui est entre le thé vert et le thé fumé, on est un peu entre les deux univers, donc et de la fraîcheur et des notes fumées, et associé avec de l'iris et de la violette et de la lavande.
Donc ça
nous fait quelque chose d'assez réussi. Je dirais que c'est pas le plus grand de la collection, mais c'est toujours très beau. Vraiment, les quatre sont magnifiques.
Alors, la révélation, j'en ai parlé rapidement, mais c'est vous le spécialiste, Lionel Payet. Alors, j'avais présenté Mise en cire.
Mise en cire.
Et vous avez choisi Musc éternel.
Oui. Alors que le monsieur, vous en aviez parlé, j'imagine, Alberto Morillas, grand monsieur de la parfumerie, CK One, Flower by Kenzo, Acqua di Gio. Enfin, on peut en citer 25 comme ça.
Quelques best-sellers.
Et le grand spécialiste du musc synthétique en parfumerie. Le musc, c'est des odeurs un peu cotonneuses, réconfortantes. Donc là, il rend hommage au musc dans Musc éternel. Donc c'est vraiment, pour ceux qui aiment le musc, c'est le grand musc du moment et qu'il faut absolument acheter.
Et allez, on finit par la déception.
Ouais, alors
allez-y là. Mon instant préféré, ma rubrique préférée.
Dior qui nous sort l'eau sauvage Cologne. Donc il faut savoir, on a tous porté l'eau sauvage, qui est une Cologne. Donc on sait que les grandes maisons aiment bien décliner les valeurs sûres. Alors le eau sauvage Cologne, c'est un petit peu une redite. Surtout qu'en fait, à part à nous ajouter une note pamplemousse, finalement on a l'eau sauvage. Moi je préfère
c'est juste pour relancer la machine. Quoi.
La bonne idée. Il y a quand même une bonne idée.
Russe, c'est une poupée gigogne. À la fin il y aura Cologne, eau sauvage Cologne, eau.
C'est ça.
Ouais.
Il y a une bonne idée. C'est la communication qui continue avec Alain Delon.
Alain Delon barbu.
Voilà.
Ah,
Alain Delon.
Magnifique.
Dans les aventuriers.
Ben voilà, c'est comme ça qu'ils vont gagner.
Les aventuriers de Robert Enrico. Donc ça, c'est vraiment la bonne idée.
Excellent film avec Lino Ventura, musique de François Drubet. Alors allez voir le film et puis oubliez la colonne.
Et parfumez-vous avec l'eau sauvage, l'original.
Voilà. Et l'original. Ouais.
Merci beaucoup, Lionel.
C'est pas mal un original, rasé de Delon aussi.
On peut terminer sinon après Monsieur Cinéma.
On parle de Delon.
Merci beaucoup Lionel, vous restez encore un peu avec nous, c'est l'agenda.
Good Luxe Paris, l'édition du week-end, l'agenda.
Pour votre peine, Emmanuel, vous avez 30 secondes.
Oh, alors là, c'est juste du name dropping. Alors, Reid Krakoff, vous savez qui est Reid Krakoff ?
Non.
Grand designer américain. C'est vrai qu'on ne le connaît pas encore beaucoup à Paris, et pourtant, c'est l'un aussi des créateurs qui agite un petit peu ce petit monde. On attendait sa première boutique parisienne. C'est pour dans quelques semaines, où ça ? Quartier fétiche du genre, 4 avenue Marignan, 8e arrondissement.
Eh bien, voilà. Parfait. 10 juin, une vente aux enchères. À chaque fois, on en a une. Balenciaga, puisqu'on parle de mode, par million, un ensemble de près de 150 pièces passionnément conservées par une proche collaboratrice du créateur espagnol, collection haute couture, année 50. Il y a même l'uniforme des hôtesses de la compagnie Air France en 1968. Il y a des projets de publicité, il y a aussi des bijoux, des vêtements, des accessoires, des parfums, du mobilier d'atelier. Et donc cette fameuse Madame R rend hommage à Monsieur Balenciaga. Je termine juste rapidement parce qu'il faut vous inscrire les journées architecture à vivre. C'est bientôt à Paris. 12, 13, 14 et 19 au 21 juin. C'est en fait Paris, en Ile-de-France et dans la France entière. L'idée, c'est que les architectes vous proposent de visiter les appartements, les maisons pour lesquelles ils ont travaillé. Vous payez 2 euros, vous vous inscrivez et vous allez avec eux. C'est pour vous montrer tout leur savoir-faire, ce qu'ils sont capables de réaliser. Vous allez vous inscrire sur le site, vous achetez le guide hors série architecture à vivre pour savoir où ça se situe. Je vous le dis aujourd'hui parce que donc il faut s'inscrire. Merci beaucoup Lionel Payet.
Merci.
On vous retrouve encore une fois avant les vacances, avant la pause estivale pour le dernier palmarès de l'année. Merci beaucoup à vous. Merci Emmanuel, au week-end prochain.
Le week-end.
Allez, Good Luxe Paris,
bonne semaine.
Best of, tout de suite.